on va parler des gilets jaunes, mais alors cette fois-ci en France, en compagnie de la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn. Bonjour Madame la Ministre.
Bonjour.
Au milieu des revendications économiques et sociales des gilets jaunes, les inquiétudes affichées concernant l'accès aux soins se distinguent. 49% des Français vivant en milieu rural affirment avoir difficilement accès à un professionnel de santé en cas de besoin. On va donc en reparler, mais auparavant vous êtes allé dans les hôpitaux à Strasbourg au chevet de ces personnes qui ont été frappées par l'attentat perpétré contre le marché de Noël. La situation là-bas, comment est-elle, Madame la Ministre ?
C'est triste. C'est très triste. La ville de Strasbourg, qui est une ville qui foisonne en cette période de Noël, est une ville un peu sidérée hier. Et donc, je voulais témoigner aux soignants qui ont pris en charge les blessés, que ce soit les SAMU, les urgentistes, les chirurgiens et toutes les équipes qui se sont mobilisées. Je voulais leur témoigner de mon admiration parce que ils ont été excessivement rapides, très bien organisés. Tout cela a été préparé, anticipé. Ils font des exercices de crise régulièrement. Et donc, il y avait une organisation qui a permis que ça se passe le moins mal possible, évidemment. Je suis venue leur dire tous les remerciements du gouvernement. Il y a toujours aujourd'hui à Strasbourg une très forte mobilisation de ce qu'on appelle les équipes médico-psychologiques. Ce sont des personnes qui aujourd'hui accueillent toutes les personnes impliquées, toutes les personnes qui sont stressées par l'attentat. Rien que dans les premières 24 heures, près de 500 personnes ont été accueillies. Certaines ont besoin d'aide psychologique, d'autres parfois d'aide matérielle. Ce sont des touristes qui ont raté leurs avions. Donc il y a une organisation mise en place pour l'aide aux victimes au sens très large. Toutes les personnes qui sentent un préjudice de cette attaque parce que ça les a stressées peuvent être prises en charge aujourd'hui, soit au sein de l'hôpital de Haute-Pierre, soit au, ce qu'on appelle au centre d'accueil des familles, qui permet un accompagnement de tous ceux qui en ont besoin. Et cet accompagnement va durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, en tous les cas, tant que ce sera nécessaire.
Le dispositif, dans le cas de ces tragédies, Agnès Buzyn, peut-il être amélioré ? Y a-t-il besoin de l'améliorer ?
C'est une question que je leur ai posée. On a fait une forme de retour d'expérience collectif dans les discussions. Je n'ai pas senti aujourd'hui de nécessité de revoir le dispositif, mais tout cela a été très bien pensé dans notre pays depuis malheureusement les attentats du Bataclan. Face à un afflux de très nombreuses victimes, nous avons réalisé, je pense que les gouvernements successifs ont réalisé qu'il était nécessaire d'anticiper tout cela. Et nous avons maintenant une organisation en France pour la prise en charge des attentats qui est assez exemplaire et qui est reconnue à travers le monde, notamment avec ses cellules d'appui médicaux psychologique qui traite à la fois des problèmes médicaux, à la fois du stress post-traumatique, mais aussi de toutes les difficultés administratives, judiciaires, avec ce qu'on appelle la cellule d'aide aux victimes, très efficace. Donc tout ça est très bien organisé aujourd'hui. Ça n'enlève en rien la douleur et le traumatisme, mais on essaye d'alléger, en tous les cas, au maximum cette douleur et ce traumatisme.
On va s'éloigner de la France des métropoles pour aller dans la France rurale. Tout à l'heure, il y eut un reportage signé Catherine Pétillon au sujet de Varzy. Donc, c'est une petite ville de la Nièvre. Elle est à peu près à 50 km de Nevers, à environ un quart d'heure de Clamecy. On a affaire à un désert médical et tout ceci fait écho à la crise des gilets jaunes. Vous êtes ministre de la Santé et des Solidarités. Que faire pour apporter des réponses concrètes à cette situation qui est une situation de désert médical? Alors, je parle de la Nièvre, mais je pourrais parler évidemment de beaucoup d'autres régions, Madame la Ministre.
Oui, aujourd'hui, environ 20% de la population française vit dans une zone où il y a des difficultés pour atteindre un médecin. Alors, j'hérite d'une situation qui est malheureusement, qui s'est détériorée au cours du temps, mais qui devient absolument critique hein, au moment où je vous parle. J'hérite de cette situation parce qu'on n'a pas pensé à former suffisamment de médecins il y a 20 ans. Et on en paye le prix aujourd'hui, avec une population médicale qui est insuffisante aujourd'hui pour traiter l'ensemble de la population française. En tous les cas, surtout en termes de médecins généralistes. Et donc, j'ai pris des dispositions très ferme dès l'année dernière pour réorganiser les soins, mieux répartir la tâche entre soignants. Il y a beaucoup d'actes aujourd'hui qui peuvent être réalisés par d'autres professionnels de santé que des médecins.
Par exemple.
Je pense par exemple à la vaccination. La vaccination, je l'ai permise depuis un an chez les pharmaciens. Ça prend un essor absolument remarquable. C'était déjà autorisé chez les infirmiers, mais pas la primo-vaccination, c'est-à-dire le premier acte de vaccination contre la grippe n'était pas autorisé. Je l'ai autorisé à la fois chez les infirmiers et chez les pharmaciens. Il y a eu cette année, rien que dans 4 régions, 700 000 personnes vaccinées contre la grippe chez les pharmaciens. Et donc toute cette réorganisation, nous la mettons en place. Je vais renforcer ce qu'on appelle les hôpitaux de proximité, les petits hôpitaux locaux qui sont en très grande difficulté. Je vais les renforcer, les restructurer. Tout ça va prendre 1 an, 2 ans.
La télémédecine.
Je l'ai fait rentrer dans le droit commun. Donc depuis le 15 septembre, on peut avoir des consultations en télémédecine avec son médecin généraliste ou entre un médecin généraliste et un médecin spécialiste pour un avis. C'est remboursé par la Sécurité sociale. Donc, en réalité, j'ai déployé tous les leviers possibles pour pallier à ces déserts médicaux. La seule chose que je ne sache pas faire aujourd'hui, c'est de créer des médecins généralistes.
Fait de les accompagner, de leur donner des incitations, ou alors de faire une carte médicale impérative, obliger de jeunes médecins à s'installer dans tel et tel endroit.
Alors, c'est ce qu'on appelle la coercition, l'obligation d'installation. Ça semble toujours une bonne idée. En réalité, tous les endroits où cela a été testé dans d'autres pays, ça a été une catastrophe. En fait, ça a abouti à ce que des médecins ne s'installent pas. Et donc, en fait, nous avons perdu en temps médical. Ces pays-là ont perdu en temps médical. Et donc, en réalité, quand on crée des conditions favorables à l'installation, notamment les maisons de santé pluriprofessionnelles, les centres de santé qui font que plusieurs soignants travaillent ensemble, en fait, ces conditions de travail sont très attractives et les jeunes médecins vont s'installer, y compris en zone rurale. Et donc, nous misons tout sur des conditions favorables à un exercice entre soignants, bien répartis, où les médecins ont leur rôle, mais où tous les autres professionnels ont leur rôle.
Il n'y a pas que les médecins dans la vie, il y a aussi les hôpitaux. Et alors là, les hôpitaux, votre pouvoir est beaucoup plus grand. Et là aussi, on reçoit beaucoup de messages sur des endroits où il n'y a plus d'hôpital, où il n'y a plus de maternité, où les hôpitaux qui demeurent sont des hôpitaux qui, en réalité, ont très peu de services opérationnels. Et là, on voit mal quelles sont les solutions apportées, Madame la Ministre.
Donc, c'est dans le plan de santé qui a été présenté en septembre, nous allons réinvestir ces hôpitaux locaux, nous allons les transformer en hôpitaux de proximité labellisés qui vont avoir des missions très définies autour de la prise en charge des personnes âgées, de la médecine générale ou polyvalente.
Mais c'est un peu ça qu'on redoute parce que...
Alors, moi, il y a des services qui ferment, évidemment. Je veux revenir sur les maternités. Les élus se plaignent de la fermeture de certains services de maternité. Il faut bien comprendre qu'en France, nous perdons 50 000 naissances par an. Notre taux de natalité est en train de diminuer.
Mais quand il faut une heure et demie pour atteindre une maternité...
Mais aujourd'hui, le problème est purement en quantité d'obstétriciens disponibles. En réalité, ces maternités, quand elles ferment, c'est que nous ne trouvons ni obstétriciens, ni pédiatres pour les faire tourner.
Illustration des déserts médicaux.
Absolument, ça n'est absolument pas un problème financier. D'ailleurs, j'ai donné ordre à ce que aucun service ne ferme, aucun hôpital ne ferme pour des raisons financières, parce que je comprends l'urgence de la situation et je comprends la douleur de ces villes de taille moyenne qui voient leurs hôpitaux fermés. Et donc, j'ai donné ordre que aucun service ne ferme pour des raisons financières. Par contre, quand il n'y a plus de médecin pour faire tourner une maternité et pas de pédiatre pour prendre en charge un bébé, il y a un risque pour les femmes et leurs enfants. Et à ce moment-là, il y a parfois des fermetures de maternité, mais c'est uniquement quand nous ne trouvons plus.
Dans le cas de quelle maternité, par exemple ?
Non, il y en a plusieurs en France.
Non, parce que c'est ça qui est toujours débattu. Dans la Drôme, par exemple, maintenant, il n'y a plus qu'une maternité à Valence, une autre à Die, c'est très éloigné. Ça veut dire que là aussi, il y a des risques pour les femmes.
Quand une maternité ferme, nous prenons des mesures pour mieux accompagner les femmes. C'est-à-dire que nous transformons ces services en services de périnatalité. Donc, tout le suivi de la grossesse se fait dans ces services, ainsi que la prise en charge juste après l'accouchement. Ce sont en fait des accompagnements très proches des femmes, très apaisant, qui permet de créer du lien avec le bébé. Et donc, ces services de périnatalité fonctionnent très bien. Et nous mettons en place des services de transport pour que ces femmes ne soient pas inquiètes d'éventuellement avoir à faire une heure de transport pour aller accoucher. Et nous prenons également en charge le fait que ces femmes aillent près de la maternité où elles vont accoucher 24 heures avant l'accouchement, quand nous sentons des signes. Donc ça, nous préparons pour qu'il n'y ait absolument pas de stress pendant l'accouchement.
Madame la ministre, c'est l'une des illustrations de la crise des gilets jaunes, c'est-à-dire le fait qu'une partie des Français se sentent abandonnés. Ils ne semblent pas aujourd'hui convaincus, ils ne semblent pas tous convaincus par les réponses apportées par Emmanuel Macron. Votre sentiment à ce sujet ?
Mon sentiment, c'est que le président de la République, lorsqu'il a fait sa campagne présidentielle, a été le premier, je pense, à poser ce constat que les services publics avaient déserté les territoires et que beaucoup de Français n'arrivaient pas à vivre convenablement de leur travail. Et donc, il avait en tête, premièrement, de faire en sorte que le travail paie mieux, que les gens puissent s'émanciper par le travail et vivre convenablement par leur travail. Et il voulait évidemment redonner un maximum de travail à tout le monde, c'était réduire le taux de chômage. Il avait compris que la dépense publique et donc les impôts qui vont avec étaient trop importants et donc il avait prévu de diminuer cette dépense publique et donc de réduire les impôts, ce que nous avons commencé à faire en supprimant par exemple la taxe d'habitation. Et surtout, il avait prévu de réinvestir les territoires ruraux en services publics. Parce que c'est un mouvement en fait qui date d'il y a une trentaine d'années. On a voulu faire des économies de dépenses publiques et on a vidé petit à petit les territoires ruraux du centre des impôts, du centre d'action familiale, de la CAF ou de la Poste. Et en réalité, on voit bien le prix que nous payons aujourd'hui de territoires qui se sentent abandonnés. Et étonnamment, les Français, ou pas étonnamment d'ailleurs, considèrent que la médecine est un service public, même si la médecine est en fait libérale, mais ils le considèrent comme un service public qui n'est plus au rendez-vous. Et donc moi, j'ai mobilisé tous les médecins et tous les ordres professionnels pour m'aider à réinvestir des territoires ruraux. Je pense qu'ils sont conscients de cette situation qui ne peut plus durer et que la santé aujourd'hui n'est plus au rendez-vous de ce qu'attendent les Français, puisque nous ne sommes plus proche des gens. Il n'y a pas suffisamment de professionnels proches des gens.
Les ronds-points sont pour la plupart encore fournis. Les gilets jaunes continuent à protester. Qu'est-ce que le gouvernement peut proposer à ces gilets jaunes pour atténuer, apaiser leur colère ?
Alors, on est face aujourd'hui à des gilets jaunes qui se sont considérablement radicalisés, parce qu'on voit bien que les gilets jaunes de la première vague, si je puis dire, ceux qui se sont émus, peut-être à juste titre d'ailleurs, de la hausse des taxes sur le carburant, ceux-là considèrent aujourd'hui qu'un certain nombre d'avancées ont été faites. On a annulé toutes les augmentations de prix de l'énergie, hein, pas seulement le carburant, mais électricité, gaz. On a proposé énormément de mesures d'accompagnement pour changer de voiture notamment, changer de chaudière,
de chaudière quand on a du mal à terminer ces fins de mois.
Tout le monde ne peut pas être concerné, mais pour ceux qui le veulent, il y a des aides évidemment. Donc tout cela a été mis sur la table d'ailleurs par le Premier ministre dès la première semaine. Mais aujourd'hui, ces gilets jaunes-là, entre guillemets, qui avaient des revendications assez précises sur leur pouvoir d'achat, le gouvernement a vraiment répondu, je pense, à la demande.
Ceux qui ne sont pas smicards, par exemple, le gouvernement n'a pas répondu à leur demande. En fait, c'est une crise des classes moyennes et pour les classes moyennes, là.
Oui, mais là, nous avons face à nous des personnes qui sont très radicalisées et qui souhaitent autre chose.
Les classes moyennes ne sont pas radicalisées. Je parlais des classes moyennes en général.
Les classes moyennes ne sont pas radicalisées. Je dis que ceux qui aujourd'hui sont soit dans les médias, soit sur les ronds-points, sont des personnes qui veulent un autre gouvernement, qui ont d'autres revendications face à la démocratie participative, par exemple, avec une remise en cause des élus, etc. Donc là, nous n'avons pas une réponse face à parfois des propos haineux. Par contre, je pense que nous avons bien répondu à la crise des gilets jaunes initiale. Et sur les classes moyennes, moi je leur dis que l'objectif du gouvernement aujourd'hui, c'est de réduire les impôts et les taxes, et donc de réduire la dépense publique, et donc d'aller encore plus vite sur la transformation de l'État que nous avions programmée. Cette transformation de l'État, nous y travaillons depuis que nous sommes au pouvoir, et donc c'est une urgence de mettre en œuvre les réformes de l'État pour réduire ce coût de l'État qui est en fait responsable en partie de cette taxation très importante des Français.
Il y a un vrai désamour des Français, ou en tout cas qui s'est exprimé dans la rue par rapport à Emmanuel Macron. Est-ce que c'est réversible, Madame la Ministre ?
Je ne sais pas, l'avenir le dira. Moi, je pense que le président a une immense lucidité vis-à-vis de ce que ressentent les Français. Alors, on dresse de lui un portrait de quelqu'un de très...
Arrogant, par exemple.
En réalité, il est habité. Il est habité par cette souffrance des Français. Depuis un an et demi que je le connais, parce que je ne le connaissais pas avant d'entrer au gouvernement, il est habité aussi par l'urgence de la situation, l'urgence de répondre à cette détresse. Je pense qu'il avait complètement... intériorisé cette souffrance des Français, notamment des classes moyennes, lors de sa campagne présidentielle. Et il n'arrête pas de dire « ça ne va pas assez vite, ça n'est pas assez concret, on n'est pas assez sur le terrain, vous devez être plus rapide pour mettre en œuvre les réformes ».
Pardonnez-moi, donc, Madame la Ministre, il n'y a pas que ça. Par exemple, la suppression de l'ISF, ça n'est pas une urgence, c'est une mesure qui a été décrétée. On se rend compte aujourd'hui que c'est le prix du consentement à l'impôt, ça a été une erreur.
Alors, je pense qu'on... On a la mémoire courte. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous avions, dans le quinquennat précédent, eu à gérer pendant 5 ans le chômage de masse et nous avions les yeux rivés sur la courbe du chômage. Et l'urgence, quand nous sommes arrivés, c'était de réduire ce chômage de masse et de relancer l'économie française. Et donc les premières mesures qui ont été prises étaient des mesures qui aident l'économie à repartir, à créer de l'emploi, à recréer de l'emploi industriel face à une France qui n'avait pas assez investi dans ses outils industriels. Et donc, il fallait de l'argent frais pour investir dans l'économie. Donc, la mesure sur l'ISF, je rappelle que l'ISF n'a pas été supprimé, il a été transformé en impôt sur le capital immobilier.
Mais du coup, les très riches, ceux qui ont, par exemple, des actions, par exemple, des liquidités, ne sont plus soumis.
Je vais vous dire, les très riches, en réalité, souvent échappent globalement à l'impôt parce qu'ils ont des sociétés. Voilà. Donc nous avons un devoir de travailler sur cette fameuse
Est-ce que vous allez remédier à ça
Je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur notamment ces sociétés françaises qui ne payent pas d'impôts en France. C'est très choquant. Nous avons sur ces chefs d'entreprise qui échappent à l'impôt. Et donc là, le président de la République a été très clair. Nous devons absolument faire en sorte que l'impôt soit le plus juste possible pour être compris par tous. C'est un impératif. Quand Bruno Le Maire se bat comme il se bat pour la taxation des GAFA en France et en Europe, c'est parce qu'on a conscience de l'importance de la justice fiscale. Et nous allons gagner cette bataille sur Google, Amazon, etc. Ils vont payer des impôts en France. De toute façon, nous gagnerons.
Madame la ministre, l'une des mesures sociales de ce gouvernement était le reste à charge zéro pour les prothèses dentaires, pour les lunettes. Je viens de recevoir une lettre de ma mutuelle m'expliquant, alors c'est un langage très ampoulé, mais ça veut dire vous allez payer plus à cause du reste à charge zéro. Est-ce que finalement je vais payer à ma mutuelle la mesure de gratuité qui a été faite par le gouvernement? Si c'est le cas de tous les Français, ça va être un jeu à somme nulle.
Alors, je vais être très franche. J'appelle ça un sabotage politique. Et je vais le dire aux mutuelles. Parce que nous avons négocié pendant 6 mois, nous avions trouvé un accord. La somme, ou en tous les cas l'investissement qui leur était demandé pour mettre en œuvre cette réforme, est modeste par rapport à leurs frais de gestion, à leur chiffre d'affaires, etc. La grande partie de cette réforme est prise en charge par l'assurance maladie. Hein. 3/4 des dépenses sont prises en charge par la sécurité sociale et pas par les mutuelles. Et donc, elles ont effectivement à participer, mais sur 3 ans, avec une montée en charge progressive. Et donc, il était convenu qu'il n'y ait pas d'augmentation de prix liée au reste à charge zéro.
Ça veut dire donc, que si Clara Lecoq-Réal qui vient de rentrer dans ce studio ne payera pas plus pour sa mutuelle?
En tous les cas, je vais faire en sorte qu'elle ne payera pas plus.
Mais est-ce que ça peut être coercitif? Est-ce que vous avez la possibilité de maintenir stable les prix des
mutuelles? J'en discuterai avec elle. Nous avons une réunion de suivi de la réforme le 18 décembre prochain. Et donc, il est hors de question aujourd'hui que les mutuelles profitent d'une réforme à laquelle ils ont participé, qui a été négociée et qui a été signée entre tous les partenaires pour augmenter leurs prix. Je ne le tolérerai pas.
Merci, Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Dans quelques instants, aux environs de 8h20, on évoquera les conséquences de la crise des Gilets jaunes avec le dirigeant d'Ipsos, Brice Teinturier, qui sera notre invité.